boîtier rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Au Sénégal, le camp présidentiel garde finalement la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives, grâce au ralliement de dernière minute du député Pape Diop. L'opposition, qui rêvait d'imposer une cohabitation au président Macky Sall, manque de peu son objectif, mais elle a réussi une percée importante lors du scrutin du 31 juillet. Alors que vous inspirent les résultats définitifs de ces législatives? La bataille pour la présidentielle de 2024 est-elle relancée? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. C'est un vieux serpent de mer, le débat sur le droit de vote des étrangers en France vient d'être relancé par le député macroniste Sacha Houlier. La droite et l'extrême droite s'insurgent. Eddy Divin, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à la dynamique équipe de l'émission et aux autorités de la RFI.
C'est gentil, vous nous appelez de Kinshasa en RDC. À mes côtés en studio, Lucille Gimbert, journaliste au service politique de RFI. Bonjour Lucille.
Bonjour à tous.
Eddy, on vous écoute, vous avez la parole.
Merci. J'ai vu qu'un député français veut déposer une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers au municipal. Dans mon pays, seuls les Congolais ont le droit de vote. Voilà pourquoi j'ai envie de savoir. Est-ce que le droit de vote des étrangers pour les élections municipales existe déjà dans d'autres pays du monde ?
Lucille.
Alors dans l'Union européenne, d'abord, les étrangers non européens ou non communautaires, comme on dit, peuvent voter aux élections locales dans la majorité des pays. La France est donc plutôt à la traîne à ce sujet. C'est en général soit sous réserve de réciprocité des pays d'origine, c'est le cas par exemple en Espagne ou au Portugal, soit une durée minimum de résidence est exigée, c'est le cas en Belgique ou dans le nord de l'Europe par exemple. Et cette durée de résidence légale minimum peut aller de quelques mois à 5 ans souvent. Ailleurs dans le monde, il y a des États qui donnent ce droit parfois aux ressortissants dans leurs anciennes colonies. Par exemple, le Royaume-Uni qui autorise les personnes originaires du Commonwealth à voter et pas seulement dans ce cas-là au municipal. Pour ce qui est de l'Amérique latine, le droit est plutôt reconnu aux étrangers de manière globale, alors qu'en Asie ou en Océanie, il y a quelques exceptions, quelques expériences. La Corée du Sud, Jérusalem-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong. Et en Afrique, alors d'après le politologue Hervé Andrès, il y a au moins 9 pays sur une cinquantaine qui l'autorisent. Et par exemple, on peut citer le Maroc, le Burkina Faso et le Malawi.
Eddy, vous avez une autre question pour Lucille Gimbert.
A-t-on vraiment une chance de voir cette proposition de loi aboutir? Si elle était adoptée, à quels critères devrait répondre à un étranger pour se voir accorder les droits de vote?
Lucille.
Alors en France, le sujet revient régulièrement depuis 40 ans, vous le disiez, c'est une revendication historique de la gauche, c'est même une promesse qui n'a pas été honorée par les anciens présidents socialistes François Mitterrand en 81 et François Hollande en 2012. A l'inverse, la droite et l'extrême droite, elles, s'élèvent contre l'idée de donner le droit de vote aux étrangers. Enfin, pas tous, il faut se rappeler que par exemple Nicolas Sarkozy y était favorable en 2001 puis en 2005, mais il n'a finalement pas poussé l'initiative une fois qu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, la proposition du député macroniste Sacha Houlier a suscité une levée de boucliers de LR et du RN. Ça veut donc dire qu'on peut donc en déduire qu'il ne le voterait pas au Parlement. La seule possibilité d'aboutir serait donc que la majorité reprenne le texte de Sacha Houlier et le vote avec la gauche. Il restera toujours l'obstacle du Sénat, vous me direz. Oui, car la droite y est majoritaire. D'où l'idée du maire de Dijon et ancien socialiste français François Rebsamen. Il s'est exprimé ce week-end dans le JDD à ce propos. Et lui, il propose que la majorité reprenne la proposition adoptée par les sénateurs socialistes en 2011. On voit bien que ce sujet vient de loin et revient régulièrement et envoie cette proposition déjà adoptée par le Sénat directement à l'Assemblée.
Mais ce ne serait pas la fin des obstacles pour autant.
Non, parce que pour donner le droit de vote aux étrangers en France, à tous les étrangers, il faut modifier la Constitution. Et ça veut dire qu'il faut obtenir soit un vote du Congrès, c'est-à-dire les 3/5 des députés et sénateurs réunis, soit un oui par référendum. Alors là, a priori, la majorité des Français y est favorable, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait la volonté politique de l'organiser. Du côté de l'exécutif, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déjà fait savoir qu'il était contre. Quant à Emmanuel Macron, cela n'était pas dans son programme de campagne et jusqu'à maintenant, le chef de l'État a dit qu'il préférait favoriser l'accès à la nationalité française plutôt que d'accorder le droit de vote aux étrangers.
Et si l'initiative prospérait, à quelles conditions un étranger pourrait donc voter au municipal ?
Alors, pour ce qui est de la France, ce serait une loi organique qui définirait ces modalités, donc on ne les connaît pas encore, mais on peut imaginer que ce seraient les mêmes critères que pour les ressortissants de l'Union européenne, qui, eux, peuvent voter aux élections municipales depuis 92. Hein, c'est le traité de Maastricht qui leur a donné ce droit. Actuellement, pour qu'ils puissent voter, les ressortissants de l'UE doivent avoir résidé légalement et habituellement en France pendant les 5 dernières années, les 5 années avant l'élection à laquelle il participe.
Merci beaucoup Lucile Gimbert pour ces explications et à très bientôt sur l'antenne. Eddy, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Kinshasa. Un mois après la levée des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO, le Mali a réussi à lever plus de 277 milliards de francs CFA grâce à un emprunt obligataire sur le marché financier régional. Amidou, bonjour.
Bonjour Chantal et à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Ouagadougou au Burkina Faso. En ligne avec nous, Pierre Jacquemot, bonjour.
Oui, bonjour.
Ancien ambassadeur de France, vous êtes économiste en études africaines. Vous avez publié « L'Afrique des possibles » aux éditions Cartala. Amidou, quelles questions avez-vous envie de poser à Pierre Jacquemot ? On vous écoute.
Ok, effectivement, la semaine dernière, nous avons appris que le Mali a levé un emprunt de 270 milliards de francs CFA. Mes questions sont les suivantes. Sait-on comment cet argent va être investi? Les autorités maliennes doivent-elles apporter des garanties aux prêteurs?
Alors Pierre Jacquemot, est-ce que cet argent va être investi ou est-ce qu'il va plutôt permettre à l'État malien d'éponger sa dette?
Malheureusement, c'est bien la deuxième solution qui va être possible. Comme vous l'avez dit, le Mali a vu lever les sanctions dont il était pénalisé le 3 juillet dernier. Mais pendant 7 mois, le pays a été en quelque sorte entravé dans son développement économique et financier par la CEDEAO. Et ses avoirs auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ses avoirs ont été bloqués. Donc pendant cette période, le Mali a continué d'accumuler ses arriérés de paiement, donc de gonfler en quelque sorte sa dette, à hauteur d'environ 350 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 500 millions d'euros. Et le pays n'avait pas de ressources monétaires et donc s'est endetté. Et il fallait donc d'urgence combler ce trou, il fallait rembourser. Et donc l'emprunt qui a été dénoué au début de ce mois-ci, le 9 août, avec les 8 pays membres de l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, a servi en fait à payer les arriérés accumulés les 6-7 derniers mois. Rien de moins, rien de plus en quelque sorte. Donc cet emprunt, de 277 milliards de francs CFA, dont vous faites allusion, ne sert pas à l'investissement, mais simplement à éponger le service de la dette qui a grossi pendant ces 7 mois.
Pierre Jacquemot, Amidou voulait savoir si les autorités maliennes apportent des garanties aux prêteurs.
Alors, dans cette opération, en quelque sorte, qui est une opération blanche, puisque l'argent qui rentre ressort immédiatement par ce truchement de remboursement, il n'y a pas de question de garantie. Mais en revanche, le problème aujourd'hui est de reconstituer une capacité d'endettement du Mali, précisément pour faire les investissements que votre auditeur visiblement souhaite pour que ce pays puisse reprendre un sentier de croissance économique. La question des garanties va se poser, effectivement. Qu'est-ce que le Mali peut offrir comme garantie auprès de prêteurs, notamment de prêteurs étrangers, alors que la note la note auprès des institutions financières du Mali n'est pas bonne pour des raisons que vous connaissez.
Alors, malgré tout, cet emprunt, les autorités maliennes ont réussi à le lever sur le marché financier régional. Quels sont les acteurs qui ont répondu favorablement aux autorités de Bamako?
Alors, il y a d'abord des banques maliennes elles-mêmes, hein, pour environ 20% du montant, ce sont des Maliens qui ont souscrit à cet emprunt. Des pays, principalement le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, pour des montants significatifs. Et de manière un peu moins importante, le Sénégal, le Bénin, le Niger et la Guinée-Bissau. Donc vous voyez que les 8 pays membres de l'UMOA, donc de la zone franc ouest-africaine, ont répondu, tout en disant qu'ils n'avaient pas tellement de choix, puisque du succès de l'opération dépendait le paiement des arriérés auprès de ses créditeurs, en quelque sorte.
Donc ils ont répondu presque par intérêt.
Oui, ils n'avaient pas trop le choix. S'ils voulaient être remboursés, il fallait qu'ils consentent ces crédits à hauteur des montants quand même significatifs, 277 milliards de francs CFA.
Merci infiniment, Pierre Jacquemot, d'avoir répondu à nos questions. Amidou, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à vous deux. On part pour Port-Gentil au Gabon. Bienvenue, Fadel.
Bonjour, Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Également en ligne avec nous, Fabio D'Andrea. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire de météorologie dynamique du CNRS. Alors, on le constate depuis des semaines aux quatre coins de la planète. Les effets du dérèglement climatique impactent de plein fouet notre vie. Les températures grimpent, les épisodes de canicule se multiplient et la sécheresse s'aggrave au nord comme au sud. Et dans l'Arctique, le réchauffement va plus vite que prévu. La glace fond et fait monter le niveau des océans. Fadel, c'est le sujet qui vous préoccupe. On vous écoute.
Oui, j'ai appris que l'Arctique s'est réchauffé 4 fois plus vite que le reste du monde. Donc, pourquoi cette zone est plus sensible au réchauffement?
Fabio D'Andrea, pourquoi les scientifiques ont-ils sous-estimé la vitesse du réchauffement autour du pôle Nord?
Déjà, Fidel demande pourquoi l'Arctique est plus sensible. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a plusieurs phénomènes physiques qui font cette sensibilité. Le plus connu, c'est la présence des glaces. Hein. Si on réchauffe un peu la planète, la glace disparaît, et la glace se trouve bien en Arctique. Et donc, en disparaissant, la surface devient noire plutôt que blanche. Et donc, elle absorbe ultérieurement de la radiation, ce qui fait une amplification. Mais il y a aussi d'autres phénomènes physiques. Par exemple, dans les tropiques, les orages, les grands orages convectifs peuvent évacuer le réchauffement vers le haut de l'atmosphère. Alors que dans l'Arctique, ce n'est pas possible et tout le réchauffement reste près de la surface. Donc la température de surface augmente. Mais il y a encore d'autres phénomènes. Alors, est-ce qu'on a sous-estimé ce réchauffement? Alors, il y a un article récent qui fait état effectivement d'un nouveau calcul de la différence de réchauffement. Mais ce n'est pas tellement ça en fait, parce que si vous y pensez, cet article, surtout, il fait référence au fait qu'il y a une grande variabilité d'une dizaine d'années sur l'autre, par exemple, de ce réchauffement. Donc, selon où on met la date de départ et la date de fin, on trouve des différents réchauffements différents. Et surtout, il y a une grande variabilité à l'intérieur même de l'Arctique. Donc, il y a des zones de l'Arctique qui se réchauffent beaucoup plus vite, genre 5 fois plus vite que le tropique, et d'autres qui se réchauffent même à la même vitesse. Donc, selon où vous mettez les frontières de l'Arctique, vous trouvez des différences de réchauffement différents. Okay, donc surtout l'article met en relief ça, cette grande variabilité.
Alors quelles peuvent
aussi,
être
met en relief,
ouais. Oui, Fadel, quelles peuvent être les retombées d'un tel réchauffement? Est-ce que cela va provoquer de fait une montée des eaux plus rapide et plus importante?
La montée des eaux, c'est pas directement lié à la fonte de la glace de mer. Elle est liée surtout à la fonte des glaces de terre et surtout aussi à l'augmentation de la température de l'eau. Hein. C'est dû par moitié à la température de l'eau qui augmente et donc elle s'expande un petit peu et par moitié à la fonte des glaces de terre. Les conséquences du réchauffement arctique, par contre, sont plus sur d'autres choses et on les voit déjà, on les connaît. Donc il y a des effets locaux, typiquement sur les écosystèmes, la faune, la flore locale de l'Arctique, et aussi sur les communautés humaines. Si vous pensez à la grande modification qu'il y a à cause de la disparition des glaces, pour des communautés comme les Inuits de Groenland et du Canada, qui basent beaucoup de leur subsistance sur ça. Il y a déjà des rapports qui font état des grands changements. Mais il y a aussi des impacts à plus longue distance qui ont à faire avec tout le globe. Et c'est principalement deux, je dirais. Donc d'abord, c'est la fonte du permafrost, c'est ce sol glacé qu'il y a dans l'Arctique. C'est le cas typiquement dans le nord de la Sibérie, qui fait que d'un côté, le terrain devient moins stable. Donc il y a des bâtiments qui s'effondrent, par exemple. Mais aussi, surtout, au niveau global, ce sol glacé qui se fond relâche du méthane. Qui est un gaz à effet de serre,
voilà,
donc, qui augmente ultérieurement le
réchauffement climatique. Merci beaucoup Fabio D'Andrea pour ces précisions. Fadel, bonne journée à Port-Gentil. On reste à Port-Gentil d'où nous appelle Armand. Bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Alors on va parler football avec Simon Bourtembourg du service des sports de RFI qui m'a rejointe en studio. Bonjour Simon.
Bonjour Chantal, bonjour Armand.
Alors Armand, vous vous interrogez sur le licenciement de Vahid Halilhodžić, l'entraîneur bosniaque des Lions de l'Atlas, l'équipe nationale du Maroc. On vous écoute Armand.
Alors j'ai entendu sur Radio Foot International que Vahid a été limogé de son poste de sélectionneur du Maroc. Bon, j'avoue ne pas trop comprendre, car la principale raison de ce limogeage serait la tension avec Hakim Ziyech. Mais rappelons-le que cette tension existe depuis longtemps. Alors, pourquoi l'avoir limogé seulement maintenant, à 3 mois de la Coupe du Monde ?
Simon.
Eh bien alors, la décision, elle est en fait tombée jeudi dernier. C'est la Fédération royale marocaine qui a publié un communiqué pour remercier Vahid Halilhodžić pour le travail accompli à la tête de l'équipe nationale et notamment, vous le disiez, la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et comme le dit justement notre auditeur, la Fédération marocaine, elle fait état, je cite, de divergences de points de vue au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas pour la phase finale du prochain mondial. Des divergences qui, pour une grande partie, concernent Hakim Ziyech, qui est en froid avec Vahid Halilhodžić. Hakim Ziyech, c'est un milieu de terrain qui évolue à Chelsea et qui a été écarté de la sélection depuis septembre 2021. Il n'était pas du voyage à la dernière CAN au Cameroun, lui qui est en fait en brouille avec son désormais ex-sélectionneur. Sauf qu'Hakim Ziyech, c'est vraiment la superstar de l'équipe du Maroc. Et même si ses performances en club et en sélection sont parfois contestables, le peuple marocain n'accepte pas que l'ancien de l'Ajax ne soit pas appelé. La fédération de football s'est aussi rangée derrière le peuple hein, parce que son président déclarait que l'équipe nationale ne peut pas exclure les joueurs marocains de haut niveau pour quelque raison que ce soit. Le message était donc clair, soit Vahid Halilhodžić réintégrait la superstar, soit il s'en allait. Il a donc fini par devoir partir. Et oui, comme le disait Armand, le timing est un peu délicat parce qu'on est à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Mais la situation, en fait, elle était difficilement tenable. Le peuple et même une partie du groupe des joueurs tournaient le dos à Vahid Halilhodžić. Donc après la Côte d'Ivoire en 2010, après le Japon en 2018, c'est au tour du Maroc de virer l'entraîneur franco-bosnien à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde.
Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent aussi ce licenciement ?
Oui, je vous le disais, la gestion d'Hakim Ziyech est vraiment la principale raison des problèmes qu'a eu Halilhodžić, mais il y a aussi le fond de jeu proposé par l'ancien entraîneur du PSG qui était souvent remis aux questions. Au Maghreb, on aime le beau football et le Maroc de Vahid était plutôt caractérisé par un certain manque d'allant offensif. Ça s'est aussi vu lors de la dernière CAN au Cameroun. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le Maroc s'est fait éliminer par l'Égypte en quart de finale. En soi, c'était pas un scandale, mais lors de ce fameux match, il y a eu un remplacement, le remplacement de Sofiane Boufal qui était l'un des meilleurs éléments offensifs. Et ça, le peuple marocain, ils comprennent pas qu'on retire le meilleur attaquant quand on est en difficulté.
Quel entraîneur pourrait prendre la suite de Vahid ?
Ben, y a un nom qui revient avec insistance lorsqu'on évoque l'avenir de la sélection marocaine. C'est celui de Walid Regragui, l'ancien Lion de l'Atlas, à l'avantage d'être libre de tout contrat, puisqu'il y a quelques semaines, il a souhaité mettre fin à son aventure avec le Wydad Casablanca. Il avait pourtant réalisé une année vraiment exceptionnelle hein, sur le banc de Casablanca, avec un doublé, championnat et Ligue des champions de la CAF. Le timing de son annonce avait un peu surpris, et finalement, il s'en va. Peut-être qu'il avait déjà en tête la sélection du Maroc. Il y a des discussions qui sont en cours, rien d'officiel, mais ça devrait arriver dans les prochains mois.
Donc affaire à suivre. Merci beaucoup Simon Bourtembourg pour ces explications. Armand, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Bonne journée à tous les deux.